Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour, bonjour et bienvenue sur RLP Business numéro 4 avec Patrice et Stéphane, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons Charles Tudela et Sabrina Quétane de SPP Sécurité Protection Prévention sur sppsécurité.com. Alors, la société SPP fait de la prévention, de la sécurité, des rondes, opérateurs vidéo, événementiels et travail cynophile avec les chiens. Elle est présente sur Périgueux, Poitiers, Bordeaux, Agen, Paris, Brive, Angoulême, Toulouse et Nantes. C'est un mastodonte de plus de 200 collaborateurs qui vous parlera aujourd'hui notamment de ses besoins de recrutement. Mais tout de suite, les actualités de la semaine.
Les actualités.
Dordogne, le panier France Bleu a augmenté de 17% en un an. Nos confrères de France Bleu, chaque année, comparent l'évolution des prix de 37 produits du quotidien. En mars, le panier France Bleu s'élève à 103,38 euros en Dordogne. C'est 3 euros de moins qu'au niveau national, mais 17% de plus qu'en mars 2022.
Petite actu sur la réforme des retraites et surtout, bonne nouvelle, Paris est en train de se libérer, Paris est libre, ça y est, les poubelles commencent à disparaître. Merci à toutes ces entreprises qui sont en train de nous libérer. Petite question, après autant de mois de négociations, après autant de mois les pieds dans la merde, comment se fait-ce que d'un coup, d'un seul, on s'entende ? Quels en sont les contenus ? Pourquoi ? Quelle est l'histoire ? Est-ce qu'on va encore assister à une réforme avec une multitude, j'ai envie de dire, de négociations et d'accords sous-marins ?
Économie en Dordogne, un dirigeant sur trois n'a pas confiance en l'avenir pour son activité. La Chambre économique de la Dordogne, mardi 28 février, lors de la présentation du baromètre Eco, a livré son analyse de la conjoncture. C'est une étude de la Banque de France, présentée par son directeur départemental Christophe Dutilleul. Les crises se succèdent, mais nos chefs d'entreprise tiennent, a souligné son président. Un dirigeant sur deux envisage de baisser son salaire. Un dirigeant sur trois n'a pas confiance en l'avenir pour son activité. Les chefs d'entreprise tiennent et aujourd'hui, je crois que par contre, ceux que nous allons recevoir, tout de suite, SPP, pour eux, tout va très très bien. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
L'invité de la semaine.
Patrice Alentel, Patrice, c'est moi, je suis ravi de recevoir SPP Sécurité aujourd'hui. À 102.3 RLP, votre radio préférée. Alors pourquoi je suis ravi ? Parce que déjà on reçoit une grande entreprise, peut-être peu connue des Périgourdins, une entreprise qui embauche 200 salariés en Dordogne. Comme on dit, ça parle. On n'a pas des entreprises aussi importantes partout sur le département. Alors une entreprise en plus dans un secteur d'activité particulier, la sécurité privée. Alors, on va pas se cacher, sécurité privée, c'est pas glamour. Hein. Moi, j'ai une image. Alors, j'ai 50 ans passés. Je vous donnerai pas mon âge exact. Mais moi, j'ai plutôt une image de videur de sortie de boîte de nuit. C'était très sympa, d'ailleurs, les boîtes de nuit. Mais c'est un métier qui a complètement changé. C'est un métier qui devient, je pense, très intéressant. Et on va pouvoir en discuter autour de cette table. Alors, Charles Tudela... vous êtes le patron de cette structure. Je vais vous demander peut-être de vous présenter en quelques mots.
Oui, pas de souci. Alors moi, c'est Charles Tudela. J'ai 38 ans. Je donne mon âge. Ça fait 13 ans que je fais de la sécurité privée dans la direction de SPP. On avait racheté la société. On avait 8 salariés. Aujourd'hui, on en a 200.
Chapeau.
Merci. J'ai vu l'évolution de la société. J'ai vu l'évolution de la sécurité aussi. Alors effectivement, on a cette image de videur. Aujourd'hui, c'est un métier qui a besoin de toute personne, qu'elle soit videur de boîte de nuit ou pas. On a besoin de personnes dans différentes structures parce que nous, on fait de l'incendie, on en fait de la sécurité gardiennage, on fait de l'intervention sur alarme, on fait du maître chien. On a vraiment un panel qui est extraordinaire et on a besoin de nous partout. Que ça soit dans des événements, on parle souvent de la Coupe du Monde du rugby, on parle souvent de ce genre d'événements. Nous, on fait des grands stades de rugby, mais aussi pour ouvrir un magasin aujourd'hui sans agent de sécurité, il n'ouvre pas. Ça, les gens ne le savent pas forcément. La sécurité, c'est hyper important partout.
Merci, Charles. On a aussi, bien sûr, autour de nous, Sabrina. Sabrina Kétal, quel poste avez-vous dans l'entreprise, Sabrina ?
Alors, je suis la directrice RH de la structure et aussi une double casquette avec l'aspect commercial et donc qui me permet d'aller à la rencontre des clients et aussi bien des collaborateurs. Donc, c'est très intéressant.
Alors, RH d'une entreprise à 200 salariés, comme on dit, c'est pas un petit boulot comme ça entre deux quand même. Hein.
C'est pas un petit boulot, mais attention, j'ai une équipe solide à mes côtés qui faisait déjà partie de la structure et d'autres personnes nous ont rejoints dernièrement. Et c'est grâce à toute cette équipe qui nous permet aujourd'hui d'avancer, de conseiller nos collaborateurs et de recruter au quotidien.
Super. Parlons un petit peu de votre secteur d'activité. Charles a commencé à nous en parler. Donc, agent de sécurité, c'est déjà plusieurs agents, c'est agent au pluriel, parce qu'il y a des spécificités entre la sécurité incendie, la sécurité grand magasin, la sécurité événementielle. Tous ces domaines, vous les travaillez ?
Oui, on les travaille, tout à fait. C'est-à-dire que toute personne qui veut travailler dans la sécurité commence par une formation. Généralement, on commence toujours par agent de sécurité, qui est un métier qui est très large, comme on disait. Ça peut être dans un magasin, ça peut être dans un événement, ça peut être en boîte de nuit aussi, hein, on reprend cet exemple. Mais après, il y a des spécificités. On peut devenir vraiment dans la sécurité incendie. On a beaucoup de pompiers qui viennent chez nous pour faire SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3. Ce qui leur donne en fait une correspondance avec leur métier d'origine, qui leur permet d'avoir des continuités quand ils sont pompiers volontaires. Donc on cherche énormément de monde dans ces domaines-là, et plus on avance, plus la sécurité va devenir technologique. Donc un peu comme l'industrie automobile, si on prend l'exemple des robots, c'est-à-dire qu'on aura de plus en plus besoin de techniciens derrière des vidéos, peut-être même de conducteurs de drones, de robots en forme de chien, on voit ça à la télé, ou même Elon Musk a montré un robot en forme humaine maintenant. Mmh. Donc on avance de plus en plus et ça devient de plus en plus intéressant.
Alors pour nos auditeurs, c'est quand même un marché qu'il faut un petit peu expliquer, parce que le marché de la sécurité, alors quelques chiffres que j'ai pu glaner sur Internet, mais sur des sources officielles, c'est un marché de 7 milliards, mais c'est surtout, ce qu'il faut retenir, un marché en croissance à deux chiffres, ce qui est quand même assez rare d'avoir une croissance à deux chiffres. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de plus en plus, on a besoin de sécurité privée. Alors bien sûr, quand on parle de sécurité privée, on pense à la sécurité publique et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Alors le privé remplace le public. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a moins de public ? Quelle est l'explication ?
Alors déjà, première explication, c'est qu'on est la troisième force de sécurité du pays. Et ça, peu de gens le savent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agents de sécurité, on aide la police sur le terrain. On fait même des rondes pour surveiller des entreprises. Et ce qui fait d'être la troisième force du pays, c'est qu'à un moment donné, on va prendre l'exemple des États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, les agents de sécurité, ils sont armés. Chez nous, ils ont le droit d'être armés aussi dans certaines circonstances. On a tendance à avoir une vision du métier très archaïque qui ne l'est pas. Et ce qui ouvre des potentiels, et Sabrina pourra en parler, c'est qu'aujourd'hui, ça ouvre 100 000 emplois ou 200 000 emplois dans toute la France, juste dans le métier de la sécurité.
Sabrina ?
Tout à fait. Je suis assez d'accord avec ce que Charles dit. Alors, je voulais juste rebondir sur un point qui m'a fait sourire. Charles a parlé de Elon Musk. En fait, Charles, dans la structure, c'est vraiment notre Elon Musk à nous, en fait. Et il y a toute l'équipe. Charles, il a cette vision, en fait, très contemporaine du métier que moi, je n'avais pas forcément, en fait. Je viens déjà du monde de la sécurité privée. Et c'est vrai que, je pense, pendant 5-6 ans, je suis un peu restée sur mes acquis où je travaillais par le passé. Et d'être arrivée dans cette structure qui est jeune, dynamique, avec cette envie de progresser et de revoir les fondements même des métiers de la sécurité, c'est une véritable chance aujourd'hui pour déjà nous, en tant que dirigeants d'entreprise, et aussi les collaborateurs. Pardon. Donc, je reviens sur un point aussi important. Pour entrer dans ces métiers-là, en fait, il faut quand même que les auditeurs le sachent. Il y a des prérequis. On ne peut pas arriver forcément avec un CV et être embauché dès le lendemain. J'en ai parlé la samedi dernier. On était au salon de la transition professionnelle au campus Périgord. On a rencontré 900 personnes. 900 personnes qui sont venues dans ce salon. Ça a été une véritable réussite. Et on a rencontré, je pense, 10 à 15 personnes potentiellement intéressés, qui vont se former et à venir travailler pour SPP Sécurité. Donc, très bonne nouvelle pour nous. Prérequis, c'est quoi ? Prérequis, c'est savoir écrire et lire le français, forcément, pour pouvoir communiquer avec ses collaborateurs et les clients. Et derrière, un autre prérequis impératif, c'est un casier judiciaire, le volet B3.
Vierge.
vierge.
Tout à fait.
Merci. Donc ça, c'est important. Ça, ce n'est pas notre travail, c'est le CNAPS, en fait, qui le fait. Conseil national des activités privées de sécurité. D'accord. C'est cette autorité-là qui a été créée à l'époque, où justement, on a pu connaître un peu les années 90 avec ces videurs, entre guillemets, de boîtes de nuit. J'emploie ce terme-là parce que c'est ce terme qu'on a tous un peu connu. Aujourd'hui, c'est fini. On a une législation, cette autorité qui vient réglementer ces métiers-là, et heureusement que ça existe. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un gage de professionnalisme, et d'autant plus que nous, SPP, on fait partie d'un syndicat qui s'appelle le GES, et qui vient encore plus conforter nos métiers, et que SPP respecte la législation. Et ça, c'est important de souligner.
Alors, on parlait tout à l'heure de formation de vos agents, mais comme ce sont des agents pluriels, dirigés sur différentes professions, j'imagine qu'il y a plusieurs types de formations entre la sécurité, j'ai envie de dire, privée des individus, peut-être sécurité de corps et la sécurité de masse quand on est là sur des événements. J'imagine que c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes compétences et peut-être pas la même formation.
C'est exactement ça. Alors en fait, pour entrer dans ce métier-là, il y a quand même un socle qui est commun à tous, qui est donc un TFP-APS, titre à finalité professionnelle d'agent de prévention de sécurité. On va dire que c'est un premier niveau d'entrée. Il y a d'autres parcours qui sont possibles, comme des reconversions. Tout à l'heure, Charles en parlait, on accueille par exemple des pompiers. Alors les pompiers, c'est encore un peu différent, mais je pense aux policiers ou aux anciens militaires qui ont des acquis, en fait, donc qui leur permettent d'avoir une carte professionnelle sans passer une formation, vous voyez. Mais effectivement, il y a quand même ce tronc commun qui est ce TFP, APS, et par la suite, après validation de cette formation, on peut effectivement devenir expert dans un métier, et donc nous, on crée des modules qui sont spécifiques à des catégories. Alors après, on a le maître chien qui a une formation bien particulière, mais je prends les métiers de l'événementiel, les métiers de la grande distribution ou les métiers de la sécurité mobile. On est sur trois champs bien distincts, mais ça, j'ai envie de dire, c'est avec le temps, c'est avec l'expérience et c'est avec l'appétence que le collaborateur va avoir.
Donc Sabrina et Charles, si je résume, si on a des auditeurs qui nous écoutent, qui puissent être intéressés par ce métier, par votre entreprise, concrètement, bon, ils postulent, mais les formations sont faites par vous, c'est des formations qui sont faites dans des écoles spécialisées, loin, comment ça se passe?
Alors, on a plusieurs possibilités. Nous, on a une société qui est rattachée à notre groupe, qui est indépendante parce que c'est la loi, qui permet de faire le titre de sécurité. C'est une possibilité. Donc si ces personnes sont intéressées, bah, ils peuvent venir taper à notre porte, il n'y a pas de souci. On les accompagnera vers le centre de formation pour voir s'ils ont toutes les qualifications pour le faire. Après, il existe aussi des écoles. Donc on travaille, nous, beaucoup avec l'école de Tulle, qui forme les agents de sécurité, qui leur permettent, jeunes, de devenir agents de sécurité. Et c'est déjà une bonne base. Après, il y a tout un aspect, en fait, bon, différentes façons de rentrer, par les acquis. C'est-à-dire les anciens policiers, les anciens gendarmes peuvent venir nous voir aussi. Et nous, on s'occupe de leur dossier pour valider leurs acquis, pour qu'ils aient la carte professionnelle. Parce que c'est pas parce qu'on a été policier ou parce qu'on a été gendarme qu'en fait, on peut automatiquement se dire on est agent de sécurité. Parce que ce qui nous différencie vraiment de tout, de tout le groupement des autres structures, entre guillemets, de sécurité nationale, c'est que nous, on n'a pas l'autorité publique. Et ça, ça fait une énorme différence. Et on le remarque bien quand on a des anciens gendarmes ou anciens policiers. Le passage doit passer par cette formation, même s'ils ont la validation des acquis, pour leur montrer de nouvelles façons de gérer les conflits sans l'autorité publique.
Oui, bien sûr. La grande différence, c'est une énorme différence.
C'est ça.
Ces examens, ces diplômes, j'imagine que c'est des diplômes reconnus d'État qui sont valables partout, tout le temps.
Oui, tout à fait. Ouais,
donc c'est des vraies formations diplômantes.
C'est inscrit au RNCP, oui. Le titre 5 est inscrit, ouais, tout à fait.
Parlons maintenant un peu de votre entreprise, de comment elle se développe. Commercialement parlant, comment vous trouvez vos clients?
Alors, on fait de marketing standard. J'ai envie de dire, c'est notre base. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Mmh. On a Facebook, LinkedIn, TikTok depuis récemment. Là, ils se sont lancés dans TikTok. Je trouve ça assez sympa. On communique aussi beaucoup à l'ancienne. On téléphone directement aux personnes. Et après, bon, c'est des demandes de devis qui nous sont adressées directement. Aujourd'hui, 80% de notre clientèle est une clientèle fidèle qu'on a depuis des années et qui nous rappelle d'année en année quand ils ont besoin de nouveaux contrats, ou une clientèle fidèle qu'on a aussi qu'on a su garder depuis 10 ans, ce qui nous a permis aussi d'avoir une fidélisation intéressante de tout le marché.
Voilà. Et là, le développement commercial, ça passe aussi par la réponse à des appels d'offres. Donc on a une partie marché public qui doit représenter aujourd'hui, allez, 15% je pense de notre chiffre d'affaires, et l'autre partie est du privé. Mais comme disait Charles, je vais rebondir maintenant sur ce point-là, on a des clients qui sont fidèles, je peux en citer certains. Ça fait des années qu'on travaille avec le festival Mimos notamment, qui est bien connu ici des Périgourdins, et donc qui se déroule le mois de juillet sur Périgueux. On a la Félibré, très attaché à la Félibré, et là pour information, donc la Félibré cette année, ça sera donc à Montignac-Lascaux, donc on y sera, vous nous verrez, SPP Sécurité. Et après, on a des événements aussi. Maintenant, ça va être assez fidèle aussi. C'est en Corrèze. Alors, on a la Dordogne qui est forcément notre base. En fait, SPP a été créée ici à Périgueux et au fil des années, s'est développée, notamment sur le département de la Corrèze, avec des clients comme le CAB, voilà, club de rugby. Et puis aussi maintenant, deux événements bien particuliers au mois de juillet où on va chercher d'ailleurs à recruter. C'est Festi Barbecue, qui va se dérouler tous les vendredis à Malmort, et Festi Malmort, qui va être des concerts durant 3 jours. Donc, assez sympathique. Ouais.
Donc, pas trop de marché public, pas trop d'appels d'offres pour vous?
On en fait. Hein. Mais en l'occurrence, on ne peut pas baser une stratégie commerciale que sur du marché public. Enfin, Charles, tu es d'accord avec moi?
Tout à fait. Moi, la première chose que j'ai apprise dans le service, c'est qu'il fallait avoir une trentaine de pourcents de notre chiffre d'affaires dédié au marché public, ce qui, à juste titre, nous a apporté chance, parce que les aléas du temps font que les marchés privés sont hyper fidèles, alors que les marchés publics, ça dure 3-4 ans. Après, on n'est pas contre en faire, on en fait aussi, parce que ça nous permet d'avoir des socles d'agents. Et de faire, en fait, dans notre métier, il y a une chose qui se passe quand on passe d'un chantier à un autre, on garde les agents. Souvent à 100%, c'est plutôt le client qui veut changer de structure pour que ses agents soient mieux. Donc ça nous permet d'avoir des socles d'agents, donc de pouvoir aller dans certaines villes où on est moins fort au départ pour pouvoir s'investir encore plus.
C'est très important parce que je voulais rebondir sur quelques exemples mauvais qui font tache dans la profession, mais qui ne touchent pas des structures comme la vôtre, même si vous êtes une grande entreprise. Mais il y a des entreprises internationales qui sont sur le marché de la sécurité et qui n'hésitent pas à sous-traiter des appels d'offres qu'ils peuvent gagner à des conditions curieuses. Et avec de la main-d'œuvre étrangère. Donc, nous, je sais très bien qu'en tant que société périgourdine et à votre taille, vous n'êtes pas sur ce type de marché-là. Et c'était bon aussi de le préciser.
Alors, c'est bon de le préciser. Alors, dans notre métier, nous, ça nous arrive d'être sous-traitants de certaines grandes sociétés. Donc, on négocie aussi toutes les conditions de travail. Parce que nous, tous nos travailleurs sont français, bien entendu, parce qu'il y a le casier judiciaire qui est nécessaire. Ça nous est arrivé aussi de prendre des travailleurs étrangers qui venaient en France, qui avaient le droit de travailler, bien entendu. C'est beaucoup plus complexe en termes de juridiction pour avoir les casiers. Mais pour être sous-traitant de certaines de ces grosses boîtes, comme on dit, qui sont vraiment bien plus grosses que nous, on aime apporter les mêmes valeurs. Parce que l'important aussi, c'est ça. C'est que, quelles que soient les boîtes avec lesquelles on travaille, on apporte nos valeurs. Nos valeurs, c'est quoi? C'est d'abord les valeurs humaines, parce qu'on est métier d'hommes, de femmes, de personnes, avant tout, d'être sécurité. J'avais adoré une image que j'ai vue sur Internet où on voit un policier, un gendarme avec leurs enfants de dos en disant, avant d'être des forces de l'ordre, c'est des papas, des mamans.
C'est sûr.
C'est pareil chez nous, et ça, c'est hyper important. Et des valeurs d'équipe aussi. Donc, on connaît tous nos agents, on en a 200, ils viennent nous voir régulièrement, on est content de les voir, on organise des événements pour aller les rencontrer, parce qu'on est répartis quand même dans toute la Nouvelle-Aquitaine, donc ouais. c'est aussi vaste, parce qu'on ne veut pas être avec tout le monde tout le temps. Et ces valeurs-là, je pense que c'est le plus important quand on devient sous-traitant de ces entreprises.
Vous avez réussi à garder un esprit, comme on dit, familial dans une entreprise qui commence à être sérieuse, parce que 200 salariés, ça se gère pas comme une entreprise de 5 salariés. Ça paraît évident ce que je suis en train de dire, mais l'esprit d'entreprise sur 200 salariés, pas facile quand même.
C'est une réalité aussi, parce qu'en fait, il faut bien savoir que la société au départ avait été rachetée par ma maman. Donc l'idée de famille, c'était la base en fait. c'est que ma maman avait repris cette société, comme je disais tout à l'heure, avec 8 salariés. Elle a travaillé d'arrache-pied pour monter. Moi, je suis arrivé un peu parce que j'ai aussi d'autres structures. Je reviendrai vous en parler. et l'idée, c'est qu'en fait, c'est que la famille, c'est important. C'est vraiment important.
Oui, alors, SPP, je voulais vous demander, vous avez 200 personnes en Dordogne ou dans la France entière ?
Alors oui, effectivement, je voulais en parler tout à l'heure. C'est 200 personnes, principalement dans la Nouvelle-Aquitaine, en fait.
D'accord.
Pour vous faire en fait, un petit ratio, pour que vous compreniez, on a à peu près 60% de nos collaborateurs basés en Dordogne. Et on va dire après Corrèze, deuxième secteur d'activité principal.
Donc vous êtes 300 à peu près.
Oui. Non, 200 et 300 en saison estivale. D'accord. Mois de juillet, ça va être vraiment un gros pic d'activité pour nous.
Vous passez 200 à 300 et durant les périodes de pointe.
Exactement. D'accord. Et on va avoir un accroissement d'activité lié aux événements, comme j'ai pu les citer tout à l'heure, tous ces concerts, les campings qui vont avoir des besoins en termes de sécurité et qui vont nécessiter un recrutement de main-d'œuvre.
Alors ça, c'est intéressant. Au niveau fonctionnel, comment passe-t-on de 200 salariés à 300 ou 400 lorsqu'il y a besoin? Au niveau management, comment on fait?
Il faut avoir une bonne équipe.
Oui, RH. Très bien. Vous avez une bonne équipe?
Alors, il faut avoir une bonne équipe RH. Il faut avoir des bons outils aussi, forcément, parce que le métier RH, en fait, il est chronophage, à souhait. Quand je suis arrivée chez SPP, mes premières missions ont été de mettre en place des outils qui allaient faciliter les activités à tous et aller dématérialiser beaucoup de choses, le traitement des CV, des candidatures, les traitements des dossiers. Donc on est passé par toute cette phase-là en fait de mettre en place des outils SIRH qui soient efficients. Et aujourd'hui, on a notamment nos réseaux sociaux qui nous aident énormément dans notre recrutement. Tout à l'heure, on parle de TikTok. TikTok, ça a été créé il y a 6 mois. Aujourd'hui, on est quasi à 300 followers. Donc allez-y les auditeurs, allez liker, allez sur notre page. Et ça nous permet aussi de recruter de cette façon-là. Et aussi les salons professionnels, évidemment.
D'accord. Donc dans la transition numérique, vous avez la partie community manager. Est-ce que vous avez développé des outils internes pour gérer vos ressources, les emplois du temps et ce genre de choses?
Alors aujourd'hui, on n'a pas forcément d'outils en fait, qui vont nous permettre ça. On a notre gestion en interne avec mes équipes. Moi, je suis la DRH de cette structure. Mes équipes, elles sont au bureau, en fait. Donc, on se voit quand même régulièrement. Le but aujourd'hui, c'est, on en parlait la dernière fois avec Charles, c'est pas de faire de la réunionnite aiguë et de faire des points réguliers. Il faut échanger. Il faut arrêter de se faire des mails à foison. Faut juste se lever de sa chaise, aller voir sa collaboratrice et parler en direct, en fait. Et vous verrez que les choses, ça se fait très rapidement, en fait.
Oui, d'accord. Donc, un peu plus à l'anglo-saxonne, en direct, en faisant les choses de manière humaine
et
prévue. Donc, vous appuyez, vous basez sur une base de manager, je suppose, de cadre. Oui. C'est organisé comment? C'est vous qui, ou c'est Charles qui fait la direction de la société, qui donne les informations, qui répercute ensuite en bas? Vous êtes pyramidal? Vous avez des hiérarchies? Comment ça se passe?
Alors, on a un comité de direction, entre guillemets, oui, qui est là en ma présence avec Sabrina.
D'accord.
Moi, je m'occupe principalement avec elle de la stratégie à mettre en place, qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit de manière RH. Et après, Sabrina répercute sur ses équipes. Donc, on a une équipe d'exploitation pure qui va s'occuper vraiment des agents de sécurité sur le terrain. Donc, ils vont aller les voir, ils vont passer une nuit avec eux, ils vont vraiment apporter tout ce suivi. Et après, on a tout ce qui est administratif. Donc, on a l'équipe administrative qui s'occupe de tout ce qui est contrat, planification. Donc, après, on a des outils de planification, des outils technologiques assez simples. Hein. C'est des planificateurs qui s'occupent des contrats, qui s'occupent, qui envoient tout maintenant de manière automatisée, les newsletters, les informations.
Suppose que vous vous basez sur des personnalités qui vous suivent depuis longtemps, qui sont importantes pour vous. Ce sont elles qui vont recruter, qui vont encadrer et qui vont porter en fait vos directives.
C'est bien de le dire.
Voilà, c'est bien de le dire. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, au sein de la société, les personnes qui sont dans la direction, c'est des gens qui sont avec nous maintenant depuis 8, 9 ou 10 ans ou depuis le début. C'est des gens qui ont commencé avec nous, qui ont su progresser. Au début, il y avait vraiment...
Donc, rentrer chez SPP, ça veut dire pouvoir faire carrière, avoir une évolution.
C'est exactement ce qu'il faut retenir.
D'accord. Si on n'est pas des éléments jetables, on rentre chez vous, on peut construire quelque chose.
Exactement. Voilà. C'est notre but, en fait. C'est-à-dire que nous, en plus, on les forme à l'entrée.
Bien sûr.
Ils rentrent chez nous. Le principe, c'est pas de les laisser tomber.
Quoi. Ah non, mais il n'y a rien de pire que de former des gens qui s'en vont après.
Là, je reprends une autre citation du directeur d'Air France, d'il y a au moins une vingtaine d'années, qui disait « On forme des personnes, c'est pas pour qu'ils aient travaillé chez la concurrence. » Si on les forme, c'est pour qu'ils restent avec nous. En plus, ils ont les mêmes valeurs que nous quand ils restent avec nous, donc c'est ça qui est intéressant. Et voilà, après, c'est le but, c'est vraiment d'avoir des personnes depuis, qui restent avec nous.
Aujourd'hui, on a quand même des collaborateurs au niveau management qui sont arrivés chez SPP, ont été formés chez SPP, ont eu un poste d'agent de sécurité et aujourd'hui sont devenus responsables d'exploitation, managers, gestionnaire RH, gestionnaire paye. On les a vus grandir, on les a vus se marier, on les a vus avoir des enfants. C'est fabuleux, en fait, de voir ça, en fait.
Vous appuyez sur un groupe, en fait, un collectif.
Clairement, oui, mais c'est clairement un collectif.
C'est une équipe.
C'est une valeur sportive, et c'est ce qu'on aime, en plus, d'ailleurs.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans la sécurité ?
Oui.
Oui ?
Oui,
d'accord. Vous avez des femmes qui viennent travailler avec vous ?
C'est vrai, mais nous avons des femmes.
Bien sûr.
Et ça fait partie, clairement, de nos recherches. Hein. On a besoin de femmes, ne serait-ce que déjà parce que dans ce métier-là, il y a certaines activités qui doivent être faites par des femmes.
Est-ce qu'elles font la même chose que les autres ?
Absolument. Je vous donne un exemple très concret. Quand vous allez voir un match sportif, vous avez peut-être des fois eu une palpation. On a vérifié sur vous si vous n'avez rien de dangereux. Forcément, une femme doit être palpée par une autre femme, personne du même sexe. Mais après, c'est plus après l'aspect aussi un peu psychologique. La femme, elle a une intuition que l'homme n'a pas. Je suis désolée, messieurs, de vous le dire.
Non, mais nous sommes complémentaires.
Exactement. Mais non, les femmes, c'est très important dans la structure.
D'accord. Dernière petite question, après je renvoie la balle à Patrice. Quand on pense sécurité, on pense aussi très souvent multiculturalisme. C'est une image que les gens ont. On a l'impression qu'il y a parfois beaucoup de multiculturels, de gens de diverses origines dans les équipes. Est-ce que c'est une image que l'on se fabrique ou est-ce que c'est une réalité ?
Alors, moi, je vais répondre à cette question, mais je voudrais juste rajouter une chose pour les femmes qui nous écoutent.
Oui.
C'est n'hésitez pas à venir nous voir et même à venir vous renseigner, parce que l'appréhension du métier, la peur qui peut arriver, on expliquera ce qu'est le métier réellement et on enlèvera cette peur. Parce que ça, c'est le pire en disant, j'entends souvent dans les dîners mondains, « Ah non, mais moi, je suis une femme, je ne peux pas faire ça. » Non, non, pas du tout. Donc, venez nous voir et on vous expliquera. Et pour le multiculturalisme, c'est une réalité. Je trouve que c'est la force de notre métier aujourd'hui. Mmh. On a besoin de tout le monde pour faire ce métier. Et c'est vraiment quelque chose... Moi, encore une fois, c'est
une preuve d'ouverture aussi, en même temps.
C'est une ouverture.
Hein, c'est pas une critique. Hein,
c'est réellement, en plus. C'est vraiment une force. Une force pour tout. Et puis... On remarque que dans le multiculturalisme, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler un peu différemment. Et là aussi, c'est complémentaire.
Alors, le management multiculturalisme, c'est une spécialité et c'est quand même important de le maîtriser.
Ça. Et ça, mais ça, je vais laisser parler Sabrina pour ça.
Ouais. Alors, par rapport à ça, en fait, le management de multiculturel, en fait, si vous voulez, nous, on va aussi éviter d'en faire. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans un métier qui est très cadré. Il y a des choses où on ne peut pas non plus, on ne peut pas aller n'importe où. Par contre, il y a quelque chose qui est très important pour nous et qu'on aime fortement. Quand vous avez embauché des personnes qui viennent de différentes cultures, c'est là que vous allez rendre compte que la maîtrise de la langue anglaise, notamment, elle n'est pas si bonne que ça en France. Donc
oui,
d'avoir
des
étrangers qui arrivent dans nos structures et qui maîtrisent la langue anglo-saxonne depuis le plus jeune âge, et notamment au Périgord, qu'on a évidemment beaucoup de culture anglo-saxonne ici. Je vous donne un exemple, un mariage par exemple, on va me dire, non, j'ai besoin d'agents de sécurité qui savent parler l'anglais. Mais il n'y a pas de souci, madame. J'ai une équipe, je sais déjà qui est-ce que je vais vous mettre.
D'accord. Très
vous
bien.
Voyez ?
Je vois très très bien. Patrice, je te laisse conclure.
Alors pour conclure, moi j'aimerais juste vous faire part d'une petite expérience que j'ai eue à l'Intermarché de Chancelade à Périgueux. Où je vais régulièrement faire mes courses, comme ça vous connaîtrez toute ma vie. Il y a bien sûr des agents de sécurité de l'entreprise SPP en permanence, régulièrement en tout cas dans cet Intermarché. Et je me souviens toujours j'avais un camarade qui faisait les courses avec moi et qui me disait « Putain, ils ont vraiment des tronches pas sympas ». Et
pourtant, il est beau, Bachir.
Et je continue parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Et j'ai pas pu faire autrement que de leur sourire à vos agents de sécurité, tout simplement leur sourire.
Il faut pas hésiter.
Et on a eu en échange.
Ah mais le sourire est une arme.
Non mais généralement quand ils sourient, ça change tout.
On a eu un échange et un partage qui était super sympa parce que bien évidemment ils ont répondu à mon sourire, ils ont souri aussi et on a même papoté. Donc voilà, un agent de sécurité, c'est un homme.
C'est un être humain. Messieurs,
c'est un être humain.
C'est ça.
Et puis ils sont là surtout pour notre sécurité et ils sont pas là pour nous emmerder, ils sont vraiment là pour notre sécurité. Donc c'est le petit message, le petit clin d'œil que je voulais faire passer. Merci en tout cas.
Merci.
Merci à vous.
Merci pour cette belle entreprise, pour ce bon partage.
Merci Patrice.
Voilà, c'était Patrice et Stéphane sur RLP Business, votre émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Si vous nous écoutez sur YouTube ou sur le podcast, n'oubliez pas de liker pour les algorithmes, c'est intéressant. Et surtout, surtout, si vous cherchez un emploi avec l'été qui vient et tout, vous allez sur sppsécurité.com. N'oubliez pas, et surtout aussi, venez nous voir la semaine prochaine.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait.
RLP.
Radio Libre en Périgord.